Alors, avec Daniel, la troisième séquence de l'histoire de la radio. Encore quelques dates, des dates, des dates, des dates. Alors, on est dans les années maintenant 1919-1940. Ça avance. En novembre 1919, la station de la Nederland Radio Industrie à La Haye diffuse une soirée musicale préalablement annoncée dans les journaux. Alors qu'en décembre de la même année, la station XWA de la Marconi Wireless Telegraph Company de Montréal, qui opère à titre expérimental depuis 1914-1915, commence la diffusion en soirée de programmes de test incluant des nouvelles, des prévisions météo et de la musique. Le 20 mai 1920, une vaste assemblée de la Société Royale du Canada à Ottawa écoute discours, programmes de musique et un concert en direct diffusé par la station XWA de Montréal lors d'un grand événement radiophonique longue distance annoncé le matin même dans les journaux et qui fera grand bruit au pays. Plus tard de cette même année, les premiers programmes quotidiens de radiodiffusion débutent en Angleterre. Entre nous, Marconi Company, aux États-Unis à Washington et Pittsburgh, station DKKOE, ainsi qu'en URSS. En décembre 1921, Radio Tour Eiffel diffuse un premier concert avec un émetteur de 900 watts à longueur d'onde de 2650 mètres. La BBC est fondée en 1922. Elle nous servira bien, n'est-ce pas ? En octobre 1922, la société française radioélectrique obtient l'autorisation d'effectuer, à titre expérimental, des émissions radiophoniques quotidiennes. À partir du 6 novembre 1922, sont organisés les concerts Radiola qui vont révéler la radiodiffusion au grand public. Les émissions Radiola sont effectuées par le poste radioélectrique de l'usine SFR de Levallois avec une puissance d'émission de 2 kW. En 1925, la radio est utilisée pour la première fois pour une campagne électorale par le candidat américain Herbert Hoover. Il y avait déjà un Hoover en 1925, vous voyez. Les premiers autoradios sont ensuite apparus dans les années 1930. En 1938, Orson Welles diffuse une émission dans un style réaliste mettant en scène une attaque martienne affolant les auditeurs qui descendent dans la rue. À la Seconde Guerre mondiale, perfectionnement des radars. Ah, le radar, alors là, développé par les Allemands, les Anglais, les Américains, n'a pas eu le temps d'avertir les raids aériens de l'attaque de Pearl Harbor. La radio-navigation, avec la Gogno automatique à cadre croisé, le Loewen, le Kunzel, puis le Deka, le brouillage radio, appliqué ensuite systématiquement sur Radio Londres, le chiffrement, avec la célèbre machine Enigma des sous-mariniers allemands, le talkie-walkie servant aux liaisons radio-téléphoniques, tout en se déplaçant à pied. Formidable, non ? Des milliers d'émetteurs-récepteurs mobiles équipent chars, avions et commandements. Le problème de l'alimentation 12 ou 24 volts est résolu par le convertisseur tournant dynamitor et par des convertisseurs à vibreurs et transformateurs. Les radios servent de support à la propagande comme la radio du Reich nazi, la Deutsche Rundfunk, qui s'active dès 1933 tandis que la BBC est écoutée, elle, pendant le couvre-feu et transmet sur Radio Londres des informations codées vers la résistance. Merci encore à eux. Deux slogans émis par la BBC. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand, de Pierre Dac, et ici Londres, les Français parlent en français. Et enfin, le fameux appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle qui font entrer la radiodiffusion dans l'histoire. Voilà pour cette séquence pour les dates. On en aura encore deux derrière. À ce moment, on va écouter une petite musique pour changer un peu. I Got Shape de Stéphane Grappelli.